Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons Histoire. J'ai moi-même besoin de voyager un petit peu le temps du générique. A tout de suite.
L'histoire sur YouTube, une histoire publique.
Les rendez-vous de l'histoire de Blois, ils sont pris en compte tous les nouveaux supports de l'histoire. Il y a un prix de la bande dessinée, du roman historique, une grosse programmation de fiction, d'histoire, au cinéma, de documentaire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de spectacles, de chansons, d'expositions, de bandes dessinées dans les rues, etc. Et donc, à cet endroit-là, peut-être le Festival de Blois est aussi une vitrine de tous les usages de cette histoire publique.
Et parmi ces usages, faisons sa place au net. La France débat interminablement des mille et une manières d'accommoder le récit national dans des manuels scolaires alors qu'elle est depuis longtemps devenue le pays de Numérix. Les parents, les professeurs réalisent-ils qu'autour de 16-17 heures, la fréquentation de YouTube fait un bond. C'est le moment où les ados sortant de classe se ruent sur les nouvelles productions que les YouTubeurs ont fait parvenir depuis le matin à la plateforme. Les youtubeurs, les plus connus, les Norman, Cyprien, Seb Lafrite, ont tant d'abonnés et de visiteurs qu'ils peuvent conclure des partenariats avec la plateforme ou avec des marques et toucher ainsi des revenus importants. Ils font rêver d'ailleurs beaucoup d'auto-entrepreneurs qui voudraient les rejoindre et vont donc utiliser les mêmes codes, la brièveté, la blague. Mais dans les contrées moins exposées de YouTube, on repère aisément des endroits où infusent les sciences dites exactes, de la biologie aux mathématiques, et l'histoire est présente aussi. Après tout, c'est un scénario libre de droit, l'histoire. Les youtubeurs peuvent s'en emparer. Ceux qui la traitent avec autant de respect que de passion vont peut-être, faute de faire fortune, devenir le chaînon qui manque à notre pédagogie.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Premier de nos aidants, pour reprendre le vocabulaire de la publicité qu'on vient d'entendre. Chaînon manquant, Baptiste Cornabas, bonjour.
Bonjour.
Votre âge ?
30 ans.
Et au compteur, première émission de radio, mais 43 vidéos déjà.
Exact.
Avec une chaîne sur YouTube qui s'appelle Parlons Histoire. Vous êtes professeur à Haguenau et à Strasbourg. Alors, il y a pas mal de gens qui décrochent de vos cours. Hein.
Oui, de toute façon, toujours. Hein.
C'est en premier cycle. Il y en a quelques-uns qui ont raccroché, peut-être, parmi les leaders négatifs eux-mêmes, parce que vous faites dans vos vidéos autre chose que le programme, ou mieux, autrement que le programme.
Voilà, c'est ça. En fait, j'avais dans l'idée de créer une chaîne YouTube, justement, pour aller au-delà des programmes, parce que si on ne fait que s'en tenir aux programmes, déjà qui sont interminables, hein, je défie quiconque dans la salle de trouver un prof d'Historio qui a fini son programme à temps. Et justement, on ne fait que gratter la surface. Et j'avais dans l'idée justement de créer cette chaîne pour aller au-delà des programmes. Donc oui, ça m'arrive de faire ma pub aux élèves en disant si vous souhaitez en savoir plus, allez voir ma chaîne ou telle vidéo.
Au pays de Numérix, aujourd'hui, je reprends le titre d'un de ses livres aux presses universitaires de France, Alexandre Moati, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'homme de toutes les transitions et de toutes les disruptions. Enfin, il faut dire que vous êtes polytechnicien, ingénieur des mines. Vous avez accompagné le web dans tous ces changements, depuis le site, le blog et maintenant YouTube.
Oui, j'ai
YouTube.
Programmé mon premier site en 96, il y a 20 ans, dans le temps relativiste de l'Internet. C'est énorme, 20 ans. Donc, programmé mon premier site, qui était un site d'histoire, xresistance.org, des polytechniciens dans la résistance. Puis après, les blogs 2005, 2006. Et puis, parallèlement, des sites publics, bibnum.fr, une bibliothèque numérique d'histoire des sciences. Et là, récemment, culturegenum.fr, des vidéos de culture générale sur Internet, et bientôt sur YouTube, bien sûr.
Ben bien sûr, vous allez arriver, vous aussi, sur
en
YouTube.
Concurrent.
Je suis pas sûr qu'on a que vous soyez en concurrence d'abord et qu'on ait retenu tous vos sites. Parce que, vous savez, le temps compte très vite. Il paraît que quand on lance un sujet, on peut perdre 40 à 50% de l'audience en 15 secondes. Ça, c'est Alexandre Moati sur 28 secondes. Faites le test.
Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la science en France entre 1795 et 1840, et plus particulièrement d'une catégorie qu'on peut appeler les ingénieurs savants sur cette période. Et cette période, on peut la qualifier, enfin, Certains la qualifient d'âge d'or de la science en France, parce qu'elle a une particularité qui est vraiment des relations entre pouvoir politique et science très particulière que je vais essayer de vous détailler.
Soyons sérieux, vous êtes passé par l'histoire des sciences, puis vous venez maintenant comme ça à l'histoire. Et qu'est-ce que vous appelez la culture générale? Vous trouvez que ça manque sur le net?
Oui, oui, je mets partie des sciences dures vers l'histoire des sciences et maintenant vers l'histoire. Et je trouve que d'ailleurs, on devrait mettre plus en valeur l'histoire dans l'éducation au détriment d'une sélection par la science qui a un peu trop hanté le XXe siècle. Donc, la culture générale, je dirais, des concepts, des notions, qu'elles soient scientifiques ou culturelles en général, qu'il est important de connaître. Et je dirais juste que on dit souvent qu'il est important de connaître et qui structure notre société après tout. Et je dirais juste que on dit souvent la culture scientifique fait partie de la culture générale, certes, personne ne contestera ça, mais j'inverse même le paradigme, le process, si je puis dire. La culture générale pourrait être scientifique, c'est-à-dire qu'on devrait appliquer une méthode dans ce qu'on entend, dans l'actualité, etc., pour décrypter, comme on dit, tout ce qui est l'actualité. On devrait avoir une méthode aussi pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans un monde présent assez...
Et YouTube, au fond, pourrait faire sa place aussi à la forme de la conférence. Hein, parce que ce qu'on vient d'entendre, que j'ai interrompu malheureusement au bout de 28 secondes, c'est le début d'une conférence de...
De culture génum.
De combien de... Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit, on l'a retenu.
De 40 minutes. Minutes. C'est vrai que c'est un format un peu consistant, mais, il faut bien dire. On essaye de traiter un sujet un peu académique en 40 minutes. Ça sera dans YouTube, il n'y a pas de problème.
Pour montrer que la conférence de longue durée peut aller jusqu'à une sorte d'éternité, nous avons pris l'exemple d'Henri Guillemin. Alors, on connaît tous en France Alain Decaux. Alain Decaux, la télévision française. Alain Decaux sur le net, ça ne marche pas tant que ça. Henri Guillemin, qui était interdit de télévision sous Pompidou, son camarade de normal, disait « c'est un fouilleur de merde », passait à la télé belge et à la télé suisse romande. Et les conférences d'Henri Guillemin, pourtant habillées comme au XIXe siècle, font un tabac alors qu'elles durent plus longtemps encore que celles d'Alexandre Moati. Son plus grand succès, c'est Robespierre.
Notre association du personnel est très heureuse d'accueillir à nouveau M. Henri Guillemin. Je crois que c'est une insulte de le présenter, vous le connaissez tous puisqu'il est déjà venu ici et pour ceux qui suivent ses conférences sur le petit écran, et je vais tout de suite lui donner la parole.
Eh bien, l'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madelin qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Ce petit monsieur propre, mais aux mains sanglantes, quelle horreur. Peggy distinguait les hommes en deux groupes, vous savez, grosso modo. Il disait, il y a ceux qui ne s'occupent que de leur sexe et de leur compte en banque. J'appelle ça la mère morte, disait-il. Puis il y a ceux qui s'occupent un petit peu, autre chose que de leur plaisir et de leur argent. Et à la limite, disait-il, reprenant Pascal, à la limite, il y a les témoins qui se font tuer. Pour moi, Robespierre, c'est un témoin qui s'est fait tuer.
Et applaudissements. Si Alexandre Moati vous dit, comme Guillemin savait si bien le faire, Robespierre, il faut lui remettre la tête à l'endroit. Voltaire, c'est un oligarque esclavagiste. Ferry, c'est un colonisateur assumé. Napoléon, c'est un tyran. Si vous prenez l'histoire à rebrousse-poil, vous avez des chances sur le net.
Ah bon. Okay. Je ne sais pas si la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, avec qui je fais le site, me gardera, mais bon.
Comment vous allez vous habiller? Parce que Guillemin, ça a du succès, alors qu'il est là, en costume, lunettes d'écaille. Il a comme seul accessoire son stylo-plume, et il désigne d'un doigt accusateur ses ennemis avec son stylo-plume. Vous allez vous mettre comment, vous?
Alors, le concept qu'on crée nouveau, c'est le gros plan sur Internet. La vidéo en gros plan, c'est un concept qui marche énormément sur YouTube, du coup. Et finalement, c'est ça qu'on essaye de créer. Et pour l'instant, les vidéos un peu académiques, parce que c'est vrai que je suis plus dans des vidéos académiques, c'est des plans où on voit des amphis, etc. Et je pense que ce qu'il y a vraiment marché sur les trois dernières années, là, c'est de la vidéo en gros plan sur Internet. Et bon, bah, voilà, le monde universitaire auquel je me rattache se calque sur YouTube pour le coup. Et je pense qu'on peut essayer de faire passer des notions comme ça, même en 50 minutes, en gros plan. Pas forcément avec des gags, mais bon.
Et vous, Baptiste Cornabas, là, vous êtes en tenue rendez-vous de l'histoire, voilà, oui. Congé formation.
Je suis bien habillé.
Vous avez été délégué par votre établissement, les missions africaines d'AGNO. Mais sur l'écran. Comment vous êtes ?
Alors oui, bah donc Monsieur Moati, vous allez devoir acheter des t-shirts, hein, parce que
une cravate justement.
Ah non non non, sur YouTube, le maître mot de l'habillement, c'est le t-shirt, parce que quoi de mieux pour se sentir proche d'un public qu'un t-shirt ? C'est vraiment, ça fait décontracté, ça fait quelqu'un d'accessible, alors que quelqu'un en costard cravate, c'est le patron d'entreprise, c'est quelqu'un d'inaccessible qui a le savoir, alors que quelqu'un en t-shirt, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose d'accessible et c'est je défie de me trouver un vidéaste connu sur Internet qui n'est pas en t-shirt.
Et vous ne reconstituez pas votre chambre d'étudiant ? Parce que souvent, on se fait filmer depuis sa chambre d'ado, et ceux qui ont réussi, on ne va pas citer de nouveau leur nom, ils reconstituent en studio leur chambre.
Voilà, mais donc ça, non, ce sont les networks qui font reproduire les chambres, d'ailleurs tous avec le même angle de vue. Mais non, moi, c'est dans mon garage.
Petite galerie des youtubeurs producteurs de vidéos d'histoire.
Hey, salut, c'est Manon Bril et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est une autre histoire.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Histoire.
Mes chers camarades, bien le bonjour.
Des maths et bienvenue dans Historio Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne.
Hey, salut à tous, ici Serac. Et aujourd'hui, l'on se retrouve pour un épisode consacré à 6 des armes et armures les plus insolites conçues et utilisées lors de la Première Guerre mondiale. Allez, sans transition, c'est parti.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Vous avez vu comme on essaye de se glisser dans le peloton des nouveaux. Bon, la marche de l'histoire, c'est un titre comme un autre. Moi, j'aime bien Un temps d'avance. C'est une chaîne que je vous ai fait découvrir, Baptiste Cornabas, de l'importance du titre, d'ailleurs. Mmh. Et vous avez entendu, Alexandre Moati craint qu'il faille blaguer, de l'importance de la blague.
Oui, c'est vrai que donc les premières vidéos qui ont marché sur YouTube en France, ce sont vraiment des vidéos comiques. Hein, donc, bah, on a dit leur nom tout à l'heure. Ce sont les YouTubeurs les plus connus. YouTube français a commencé avec l'humour. Et c'est devenu un peu le modèle, j'ai envie de dire, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue. C'est devenu le modèle pour quasiment tous les YouTubeurs, tous ceux qui veulent faire des vidéos, les vidéastes, de passer par la case humour pour un peu faire passer la pilule de la vulgarisation scientifique.
Par exemple, des normaliens veulent s'adresser à d'autres normaliens, Alexandre Moati, la relation interpair, comme on dit dans le langage universitaire, le titre, ça va être
Les Ernest, enfin, je n'en suis pas, mais je le connais quand même, les Ernest du nom de la cour des Ernest
à
l'école normale, rue d'Ulm, donc c'est
le
très connoté.
Est, hein, voilà, dont c'est les poissons rouges s'appellent les Ernest. Ouais. Voilà, c'est un rapport avec l'histoire, hein, parce que c'est Ernest Lavisse qui était directeur de l'école normale supérieure. Absolument, et qui a donné son nom à ces poissons.
On a entendu parler récemment, Lavisse, justement, à propos des ancêtres.
Un point commun pour beaucoup de youtubeurs, c'est le goût pour les temps obscur. Moi, je n'oserais pas faire une marche de l'histoire qui soit sourcée sur Auxilius de Naples, Eugenius Vulgarus, lieu de prendre de Crémone et Benoît du Mont Soracte, qui ont visiblement inspiré Nota Bene, un youtubeur de Tours, pour sa vidéo sur un pape qui a été élu au début du Xe siècle.
Avec Serge III commence une période de la papauté que l'on appelle la pornocratie pontificale. Rien de salace, rassurez-vous. Enfin, si en fait. Durant cette période, qui dure une cinquantaine d'années, les papes sont les pantins de Théophylacte, qui assure le pouvoir sur le Saint-Siège grâce à sa propre femme et à ses filles qui sont plutôt proches des politiques et religieux de la région. Serge III succombe lui-même au charme de l'une de ses filles, Marozia, alors que cette dernière n'est âgée que de 15 ans. De leur union illégitime naîtra un fils dont la paternité n'est en fait pas certaine, mais qui deviendra lui aussi pape plus tard comme son père supposé.
Des maths et bienvenue dans Historio Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Donc là, je vais revenir sur la guerre de succession qui va suivre la mort de Salomon entre Burwan et Pasquetaine. Le 28 juin 874, Salomon est assassiné dans un complot qui regroupe différents conjurés souhaitant la mort du roi breton. Les deux meneurs de ce complot sont Gurwand, le gendre d'Erispoé, un guerrier émérite et téméraire, trop selon Salomon qui a tout fait pour l'écarter du pouvoir tant qu'il était en vie, et Pascueten, gendre lui de Salomon, un de ses plus proches conseillers, piètre guerrier mais habile diplomate, étant habitué à la vie à la cour et aux négociations. D'après vous, que vont faire ces deux gaillards une fois Salomon éliminé? Devinez.
Ça, c'est raconté dans les chroniques d'Erwald le Noir. Alors Morvan, Gurwan, Viomar qui va lui succéder. Après, il y a Nominoé, ça, on sait davantage, c'est une grande figure de la tradition romantique bretonne. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à intéresser le public d'aujourd'hui, vos ados à Agno, à ces personnages des temps obscurs? Ça tient à quoi? À une manière de raconter?
Il y a la manière de raconter, oui, il y a le vocabulaire utilisé qui est souvent, enfin, qui essaie de se rapprocher d'eux. C'est rare aussi de trouver un vidéaste vulgarisateur qui fonctionne, qui n'adopte pas un langage de jeunes.
Et puis, il faut prévenir, là, pour retenir l'intérêt. Rien ne s'alasse. Voilà. Dans aussi, cette histoire de pape, mais évidemment.
Ou alors que si on parlait avec le langage du 18e siècle, ça serait, je pense que ça serait moins intéressant pour les viewers. Donc, ceux qui vont regarder la vidéo.
Non mais vous êtes un aidant, il faut que vous jouiez votre rôle, hein, n'oubliez pas. Mais en même temps, il n'y a rien de faux, j'ai vérifié, parce que moi je ne connais rien à toutes ces histoires, dans le dictionnaire de la papauté de Le Villain, dans l'histoire de la Bretagne de Cornette, il n'y a rien de faux. Parce qu'il faut se méfier, hein, Alexandre Moati, de l'alter-histoire, comme il faut se méfier de l'alter-science.
Oui, oui, c'est vrai qu'Internet a à boire et à manger. Faire attention avec ces canaux-là. Globalement, sur les vidéos YouTube, moi, j'ai eu l'occasion de le tester sur les matières que je connais bien en sciences, en physique. Il y a des choses très intéressantes. Hein. On peut citer y penser. C'est vraiment de la vulgarisation de physique tout à fait intéressante, avec une touche personnelle, mais... très peu d'erreurs, pour ne pas dire pas d'erreurs.
Alors, y penser. On a dit qu'on ne disait pas de mal de vos camarades youtubeurs en histoire. Mais on peut critiquer y penser, puisqu'il s'agit des sciences dites exactes. Il y a eu toute une polémique, oui. Baptiste Cornabas, sur le fait qu'y penser ne présentait pas nécessairement ses sources.
Voilà, c'est son point de vue. C'est d'après y penser. La personne qui regarde la vidéo, le viewer... est intéressé par justement son travail, c'est à lui de rechercher justement de se sourcer lui-même en fait.
Nota Bene présente ses sources. Nota Bene, c'est lui qui nous racontait l'histoire de Serge III. Mais souvent les sources de Nota Bene, elles sont un peu anciennes parce qu'il est allé, il habite à Tours, il est cadreur de son état. Il sera au rendez-vous de Blois. Il publie un livre sur la vulgarisation historique. Il va chercher ses sources sur le net. Il va aller acheter par Amazon des vieux rossignols pour parler de Louis XI plutôt que Murray Kendall ou les tout derniers livres qui sont parus sur Louis XI. Et c'est un peu disparate. Ils sont peu à être professionnels de la profession comme vous, monsieur le professeur.
Alors ils sont peu, c'est vrai. Donc moi j'ai un bagage, donc j'ai fait des études d'histoire pour être prof d'histoire géo. Mais heureusement, en fait, c'est Nota Bene justement qui a eu cette idée de créer un groupe secret sur Facebook. Donc, il s'appelle Illuminati.org.
Enfin, vous pouvez le redire,
non,
parce que c'est secret.
C'est plus secret. Non, c'est secret, en fait, dans le sens que c'est seulement ceux qui ont une invitation peuvent venir. Et donc, on y invite des professionnels, justement, historiens, pour relire nos scripts. Donc, on est plusieurs vidéastes historiens dessus. Dave Sheck, de la chaîne Histoire Brève, Nota Bene, moi-même, Manon Bril. Et du coup, on présente nos scripts à ces professionnels qui les relisent, qui les vérifient. Et comme ça, de cette manière, on est sûr que tous nos scripts ont une certitude scientifique.
Qu'est-ce que vous disiez en privé? On a dit qu'on ne disait pas de mal des petits camarades, mais du producteur d'Hysterio Braise, vous disiez que...
Ah oui, qu'il avait l'air très, très mal à l'aise.
Comme vous,
comme moi, tout au début, oui.
Vous savez que c'est un artisan du bâtiment de Centre-Bretagne. La plupart des youtubeurs en histoire ne sont pas des historiens d'origine.
Non, ça n'empêche pas qu'une personne qui est fortement intéressée par l'histoire, même si elle pose des carrelages, peut faire des vidéos. Si ce qu'elle dit est intéressant et exact.
Oui, mais il faut trouver de l'argent, parce que vous êtes un pensionné de l'éducation nationale.
Oui, voilà, donc mon portefeuille n'aime pas trop mon métier, oui.
C'est quoi votre salaire?
Je suis un petit à peine au-dessus du SMIC.
Ouais. Donc, vous ne pouvez pas, finalement, avec votre salaire, contribuer au financement des vidéos.
Non, mais j'ai dû acheter mon appareil photo à crédit. Hein.
Alors, comment faites-vous? Est-ce que vous faites un appel aux dons, comme Nota Bene?
Alors, je fais un appel aux dons, oui, mais pas de plateforme participative. Donc déjà, avec les publicités, Google me donne entre 20 et 40 dollars par mois.
C'est-à-dire que Google... YouTube. Compte, enfin YouTube, parce que c'est une plateforme américaine, oui, compte le nombre de clics et vous rétribue.
Alors c'est pas par rapport au nombre de clics, c'est par rapport au nombre de publicités visionnées.
Oui, d'accord.
Voilà.
Mais ça donne très peu de résultats.
C'est très
pour
peu,
vous.
Enfin 20 dollars, avec le change, on est à 15 euros par mois. Donc je peux aller au McDo avec ma copine, c'est super.
Oui.
Et par contre, j'ai beaucoup de YouTubeurs ont ceci en place, c'est un Tipeee, donc c'est.
Pardon.
Un Tipeee, donc c'est pas la tente de l'Indien, ça vient du mot anglais tip, donner un pourboire. Et du coup, c'est des gens qui, chaque mois, donnent un pourboire à ces personnes qu'elles aiment bien, dont elles apprécient le travail. Et donc ça m'aide bien.
Alors le financement participatif, c'est formidable pour Confession d'Histoire. Je ne sais pas si ça permet de payer les costumes, parce que les personnages disent « je » et ils apparaissent à l'écran en costume. Ici, c'est le roi capétien Louis VII.
Épouser la duchesse d'Aquitaine, c'est une belle affaire pour le domaine royal. Parce que non seulement l'Aquitaine, c'est grand, mais depuis l'époque romaine, c'est surtout riche, très riche. À côté de Bordeaux où a eu lieu notre mariage, bah Paris, c'est un peu la province. Et là, j'ai découvert Aliénor. Une bombe ! Ça me fait plein de choses quand je la regarde.
Je le supporte plus, le Louis, il me sort par les yeux avec son menton tout lisse, hein. Moi, je veux un mec, un vrai, quoi, hein, que je peux contrôler. Alors stop, c'est marre, je me casse. Merci pour ce moment, tout ça, mais alors là, vraiment, j'en peux plus.
Allez, mettez-vous bien face caméra.
Ok.
Et c'est parti.
Aliénor, si tu reviens, j'annule tout.
Ouais, c'est pas gagné.
Alors, vous seriez vérificateur. Alexandre Moati, vous avez tous les titres pour ça. On vous demanderait, pour pouvoir entrer dans la confrérie secrète, dont le code est...
Les forces d'intervention historique.
Il faut que vos vidéos soient vérifiées. Qu'est-ce que vous diriez de celle-ci, comme ça?
Bon, je dirais, premièrement, je ne suis pas moyen-âgiste, mais comment on dit mais bon, oui, non, moi, écoutez...
Il n'y a rien qui vous gêne.
Qu'on entend
y a rien
est
qui vous
assez
gêne.
Attractif.
Il n'y a rien qui vous
oui,
gêne.
C'est assez attractif. Que... Moi, ce n'est pas mon genre de beauté. Je fais autre chose. Mais je conçois qu'il y ait plusieurs choses, plusieurs canaux de diffusion mais différents. Il n'y a rien qui me gêne, moi.
Que
non,
Louis
non.
VII parle comme Nicolas Sarkozy, ça ne vous gêne pas?
Ouais, peut-être l'inverse serait intéressant, d'ailleurs. mais donc... Voilà, non, il n'y a rien qui me choque. Donc, non, je pense qu'il faut plusieurs canaux de diffusion différents et chacun contribue à son niveau de vulgarisation et à ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il croit devoir faire pour l'intérêt général.
Défendez vos camarades de Confession d'Histoire. Qu'est-ce que vous aimez là en eux?
Ce que j'aime, c'est qu'ils vont justement. Parce que comment dire, là on parle d'Aliénor. Souvent Aliénor dans les livres d'histoire, c'est un portrait souvent un peu mal fait et qu'on n'a pas envie d'apprendre. Je suis désolé, c'est comme ça. Et là on la voit enfin personnifiée, même si c'est une actrice, elle joue remarquablement bien, pardon. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec Confession d'Histoire, c'est que enfin l'histoire est personnifiée. Et on peut se mettre à la place des gens, et c'est ça qui peut nous faire aimer l'histoire.
Personnifier, parce que vous faites aussi de la géographie, vous personnifiez la ville, par exemple.
Oui.
Hein? Vous faites des cartes?
Oui, toutes mes cartes sont faites à la main, mais sur l'ordinateur.
Alors, ça apparaît souvent, la carte, dans vos vidéos. Et vous versez davantage dans le contemporain. Vous êtes un contempo et pas un moyen-âgiste.
Voilà, hein? Berk. Oui, je fais.
Et pourquoi vous êtes un contempo?
Parce que je trouve que c'est l'histoire contemporaine, c'est l'histoire qui recèle le plus d'anecdotes, notamment durant les guerres mondiales ou la guerre froide. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur la bataille de Merzel-Kébir, hein, les Anglais qui sont censés être nos alliés, qui nous attaquent. Sympa.
Et ici, une bizarrerie sur la carte de l'Europe dont vous donnez une explication historique. Il est temps enfin qu'on l'entende. Parlons histoire.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons histoire.
Ah, la Russie, ce beau territoire grand, vaste, uni. Mais c'est quoi ça? Attendez, je dois vérifier. Ah oui, mais il s'avère en fait que le territoire russe ne forme pas un tout. Il existe un tout petit territoire lui appartenant, représentant moins de 1% du total du territoire russe, enclavé dans l'Union Européenne. Il s'agit en fait d'un oblast, une unité administrative que l'on pourrait traduire par chez nous par une région, l'oblast de Kaliningrad. Mais que fait donc ce morceau de Russie ici? Et pour répondre à cette question, il faut revenir loin en arrière. C'est parti.
Et votre site, on le trouvera sur notre site. Ça, c'est la vidéo qui vous a demandé le plus de travail.
Oui, Kaliningrad, c'était vraiment... j'en ai eu 3 mois de travail, si je me rappelle bien, pour trouver toutes les sources, pour remonter l'histoire de Kaliningrad. Et je suis remonté avant l'an 1000, donc je ne pensais pas remonter si loin. Mais...
Et vous tournez dans votre cave, pas dans votre chambre?
Non, bah, j'ai plus de chambre d'étudiant hein, à 30 ans, ça serait un peu... Mais non, c'est ma cave, j'ai aménagé, il y a le fond vert, il y a les spots, il y a la caméra devant.
Ça a beaucoup progressé depuis que je ne l'ai vu. Moi, je vous avais repéré il y a plus d'un an, mais c'est incomparable ce que vous produisez aujourd'hui.
Oui, tout au début, j'étais devant le fond de mon salon avec ma GoPro, donc une petite caméra qui est censée être pour le sport. Bon, c'est un autre type de sport, hein, heureusement aussi, grâce à Tipeee, j'ai pu acheter pas mal de matériel... notamment la caméra.
Et votre communauté, si on peut employer le mot, qu'est-ce que c'est? Et comment l'entretenez-vous? Et comment réagit-elle?
Alors ma communauté est en général enthousiaste à ce que je fais, bien sûr. Sinon j'aurais pas autant d'abonnés.
Vous en avez quand même...
32 000.
32 000, mmh. C'est pas le top du top.
C'est pas je m'en suis très content, ouais. De mes 32 000 personnes qui me suivent, merci à elles d'ailleurs. Et oui, ma communauté, en fait, souvent, c'est ça qui est un petit peu dommage avec YouTube, c'est... quand on fait la vidéo, en fait, on a, en tout cas les vulgarisateurs, on apprécie énormément avoir un retour de la part de la communauté. Et ça se fait sous la forme de commentaires sous la vidéo. Hein, c'est souvent, ça m'est arrivé de corriger, de compléter une vidéo grâce au débat qu'il y a pu y avoir sous la vidéo. Donc ça reste très intéressant. Mais ce qui est dommage, c'est que ça reste une liste de commentaires et on ne voit pas les personnes qui sont derrière ces commentaires.
Mais alors, il vous arrive, comme nous, là, au rendez-vous de Blois, de les toucher en direct? Vous avez des sauteries entre vous?
Oui. Oui, on se fait des petites sauteries, mais c'est avec un autre groupe secret. Mais voilà, au fur et à mesure, en fait, j'ai souvent les mêmes personnes qui viennent commenter mes vidéos, et déjà ça fait plaisir. Et du coup, donc parfois je fais des conventions, comme la Neocast ou d'autres conventions, et enfin je peux voir ces personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos, qui arrivent en me disant « Ah, salut, c'est machin », en me disant son pseudonyme. « Ah, ça fait plaisir de mettre enfin une tête sur ce commentaire, sur cette image. » Et oui, ça fait très plaisir, on se fait un câlin, un petit selfie. Puis...
Est-ce que vous avez prévu, vous qui accompagnez toutes les disruptions, l'arrivée, Alexandre Moati, de vidéastes très, 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 très jeunes qui vont bousculer les puissances installées comme Parlons Histoire?
Non, alors ça, c'est vrai que, enfin, Parlons Science, là, ça a été vraiment un coup de tonnerre dans le paysage Internet. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un article que l'arrivée, il manquait des vidéos scientifiques francophones. Hein, ça s'était pas mal développé aux États-Unis. Et puis, tout d'un coup, est arrivé YouTube, d'abord plutôt en sciences exactes, hein, dans oui. Le domaine des un peu des geeks, des informaticiens, etc. Et maintenant en histoire. Et ça a été.
Mais
un
c'est
phénomène.
Des gens de quel âge? Les nouveaux qui arrivent, oui, mais 30 ans, d'accord. Oui, mais est-ce que vous savez à quel âge on peut s'inscrire comme producteur sur YouTube?
Ah ben, je crois qu'on peut s'inscrire dans les 13-15 ans, c'est ça?
13 ans, c'est-à-dire que l'âge de la majorité sexuelle monte et l'âge de l'inscription sur YouTube baisse. C'est
comme ça. Producteur, hein, on parle comme producteur.
On parle comme producteur. Comme auditeur, et vous avez des élèves qui vont bientôt vous faire concurrence. Qu'est-ce qu'ils produisent, vos élèves?
Alors oui, donc c'est vrai que... Je suis devenu une star pour certains depuis qu'ils savent que j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Surtout, certains me demandent des autographes alors qu'ils connaissent même pas mon travail, c'est incroyable. Ouais.
Et ils vous montrent carnet. Ce qu'ils produisent.
Alors il y en a certains, oui, qui me disent, oui, regardez monsieur, j'ai une chaîne YouTube, et souvent c'est un petit let's play, donc ils filment leur écran en train de jouer à un jeu vidéo. Et, bon, c'est très peu de la vulgarisation. Hein.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Merci.
Un tout petit mot, Alexandre, juste un mot.
À l'inverse, je connais des profs du supérieur qui évitent de donner à leurs élèves les adresses de leur blog, etc.
Mais ça, vous n'avez pas versé dans ce défaut. Nous en sommes ici tous témoins, nous sommes en direct et en public. Demain aussi, des rendez-vous de l'histoire à Blois. Demain, on parlera des missionnaires. Comment s'appelle votre collège à Agno ?
Collège des missions africaines.
Eh ben, ça tombe bien. l'émission était préparée par Mathilde Novel avec à la réalisation Valérie Estaraï. Tout à l'heure, Pascal Pic sera l'invité de Mathieu Vidard. Et je remercie Roland Dandalex, Benjamin Thuot, Jean-Pierre Pernel, Christophe Goudin, l'équipe ici de la Marche de l'Histoire à Blois.